Être père aujourd'hui à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Dans le cadre du projet de la série de podcasts concernant la paternité, je suis aujourd'hui dans les locaux du réseau Auréane. Avec le docteur Bernard Bayeux, qui en est le président, Fanny DeVos, la directrice, Mélissa Ferdouze, qui est chargée de projet, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise. Je vais d'abord donner la parole au réseau Auréane, qui va nous présenter ses missions, puis nous entendrons le docteur Patricia Dedang, qui nous parlera des enjeux de ses podcasts, en évoquant en particulier les vulnérabilités psychiques des pères en période périnatale. Docteur Bayeux, pouvez-vous nous présenter le réseau Auréane ?
Les réseaux de santé en périnatalité ont été créés dans les années 2000 dans le cadre du plan ministériel autour de la périnatalité. Le réseau Auréane est une association loi 1901 qui couvre l'ensemble de la région Hauts-de-France. Ses missions sont définies dans un cahier des charges qui est issu d'une instruction ministérielle.
Quelles sont les différentes missions du réseau Auréane ?
Ses missions sont de coordonner et mettre en lien tous les professionnels qui accompagnent les familles dans leur parcours avant, pendant et après la grossesse. L'objectif est d'uniformiser les prises en charge et l'accompagnement des familles pour améliorer la qualité des soins. Par exemple, faire en sorte que le pot à pot soit proposé dans l'ensemble des établissements et des maternités, faire en sorte que la promotion de l'allaitement soit la même dans l'ensemble des maternités et mis en œuvre par l'ensemble des professionnels. Deuxième mission, il s'agit de former les professionnels sur les pratiques et les meilleures prises en charge possibles autour de la grossesse. Troisième mission, c'est d'informer les usagers sur les pratiques et sur les niveaux de soins au sein des établissements et parmi les professionnels de ville.
Fanny DeVos, comment est organisé le réseau Auréane et qui sont les intervenants ?
L'équipe est composée de chargés de projet, de sages-femmes chargées de projet, d'une chargée de communication, d'une assistante de direction et d'une directrice. Et la particularité de l'équipe, c'est d'avoir une réelle complémentarité dans les compétences au sein des profils, puisqu'on a des personnes soignantes, des personnes administratives avec des compétences spécifiques sur la formation, la communication ou d'autres compétences indispensables à la réalisation des projets de l'association.
Alors, quelles sont les grandes orientations et les projets en cours ou à venir ?
Les projets sont découpés en plusieurs axes. Un axe relatif à la bientraitance et à la bienveillance en santé périnatale, où on va par exemple travailler sur des thématiques spécifiques comme l'accompagnement des femmes en situation de handicap dans leur projet de naissance, travailler également sur la promotion de l'allaitement maternel, l'amélioration des pratiques dans les services de soins pour permettre aux parents de prendre davantage leur place dans les soins au nouveau-né dès son arrivée. On travaille également sur la favorisation de l'accès aux soins pour les femmes en situation de précarité par exemple, et bien d'autres thématiques encore autour de la périnatalité.
Avec qui travaillez-vous ? Qui sont les partenaires du réseau Auréane ?
Auréane est missionné par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France pour travailler spécifiquement sur la prévention des troubles de la santé mentale chez la mère et future mère, dont notamment la dépression du postpartum. Par ailleurs, le travail d'Auréane sur la santé mentale fait également écho à la directive de l'instruction sur les 1000 premiers jours. Les partenaires d'Auréane sont très variés puisque l'ensemble des professionnels qui sont amenés à rencontrer les parents et futurs parents à un moment donné de leur parcours vont être en lien avec Auréane. Donc on parle ici des acteurs hospitaliers, des professionnels libéraux, de PMI, mais également toutes les associations du secteur médico-social et social, comme par exemple les associations qui vont accompagner les femmes de victimes de violences conjugales, les associations également qui accompagnent le deuil périnatal et bien d'autres encore, notamment sur le handicap, la santé mentale, etc.
Parlons maintenant plus précisément du projet de podcast des pères. Mélissa Ferdouze, comment est né ce projet et quel en est l'objectif ?
Le projet de podcast des pères est venu se greffer dans un projet un peu plus global porté par Auréane autour de la santé mentale en périnatalité. Auréane engage de nombreuses actions dans le domaine de la périnatalité. Il était vraiment important de pouvoir donner la parole au papa suite à la sollicitation du docteur Dedang. Donc les objectifs du projet étaient de pouvoir donner la parole aux papas, de pouvoir recueillir leurs ressentis, leurs sentiments autour de la naissance de leur enfant.
Comment avez-vous procédé pour trouver des papas qui acceptent de participer au projet? Et avez-vous rencontré des difficultés pour convaincre les candidats?
Donc on a créé un support de communication, un appel à témoignages, pour expliquer le projet et que les papas puissent se projeter sur ce qu'ils pouvaient raconter au sein des podcasts et vraiment les objectifs. Donc ce support de communication a été diffusé très largement, donc au sein des établissements de la région, mais aussi des professionnels libéraux, des PMI. On a sollicité également les mairies pour que ce soit diffusé dans les centres sociaux et les crèches. Et c'est de cette manière que nous avons essayé de capter les papas. Sincèrement, on pensait que ça allait être plus rapide. On s'est rendu compte que les papas n'avaient pas forcément, ils étaient assez pudiques et il était difficile pour eux de prendre la parole de manière publique et d'expliquer leur vécu. Je dirais que ce qui a le plus fonctionné finalement, c'est le bouche à oreille entre professionnels pour capter des papas et et voilà. Après, ceux qui ont été sollicités et qui ont participé au projet étaient vraiment fiers et contents de pouvoir partager leur expérience à d'autres pères et familles.
Alors maintenant, je vais donner la parole au docteur Patricia Dodangue. Vous êtes pédopsychiatre, responsable d'un secteur de pédopsychiatrie sur l'île et vous vous occupez plus spécifiquement d'une unité de psychiatrie périnatale. En quoi cela consiste exactement ?
Alors oui, je suis responsable d'une unité de psychiatrie périnatale où je travaille avec toute une équipe pluridisciplinaire et nous avons pour objectif de prévenir et de prendre en charge la souffrance psychique des parents en période périnatale, celle éventuelle de leur bébé ainsi que les difficultés dans leurs relations réciproques. Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les professionnels de périnatalité, en particulier les maternités, les services de néonatologie, les PMI et les crèches. Et nous sommes bien sûr des partenaires du réseau Orean, avec lequel nous construisons de nombreux projets. Je copilote par ailleurs avec des collègues, en lien avec l'élu à la santé de la ville de Lille, le groupe de travail parentalité et enfance du Conseil Lillois de santé mentale, où nous avons développé de nombreuses actions, en particulier en faveur de la dépression postnatale, et tout ça en collaboration avec la population. Et depuis 3 ans maintenant, nous avons mis un focus sur des actions en faveur de la paternité.
Quel genre de situation accueillez-vous dans votre unité de psychiatrie périnatale ? Pourquoi des parents viennent vous rencontrer ?
Devenir parent ne va pas de soi. C'est une période de grand remaniement et de vulnérabilité psychique qui parfois peut s'accompagner d'une importante détresse et les parents ont alors besoin d'être soutenus et accompagnés. Alors les pathologies sont multiples, mais nous rencontrons en particulier beaucoup de mères qui souffrent de dépression postnatale, également de syndromes anxieux, et nous accompagnons aussi des bébés qui présentent des difficultés passagères, comme par exemple des troubles du sommeil, ou qui présentent des troubles précoces du développement plus durables, comme des troubles psychomoteurs ou des retraits relationnels.
Vous suivez également des pères ?
Alors oui, nous envoyons en consultation, et plus souvent qu'il y a quelques années. Mais généralement, c'est parce qu'ils viennent accompagner la mère et nous pouvons alors aborder leurs difficultés par ce biais. Mais ils ne font jamais de demande pour eux-mêmes et ne se présentent que très rarement seuls aux consultations. Par contre, notre équipe de psychiatrie périnatale a pour particularité d'intervenir au domicile des parents et le domicile est un bon levier pour entrer en contact avec les pères et avoir accès à leurs difficultés propres.
Comment expliquer que les pères soient plus présents en consultation qu'auparavant ?
Alors sans doute parce qu'ils sont plus autorisés à le faire. La place du père dans la société change, son rôle et son statut aussi. Il a longtemps été cantonné dans un rôle de contrôle et d'autorité, c'était le règne du pater familias. Mais à partir des années 80, la notion de nouveau père est apparue, c'est à partir de cette époque qu'on a commencé à parler des papas poules. Et depuis, le modèle du père aimant, affectueux et présent pour ses enfants s'est progressivement imposé comme le rôle légitime du père dans la famille. Mais il n'est pas certain que ce modèle concerne tous les pères d'aujourd'hui.
Est-ce que l'évolution des lois a pu favoriser l'émergence de ces nouveaux comportements masculins ?
Oui, oui, tout à fait. Cela résulte en partie de l'évolution de la loi, qui lui a progressivement retiré son omnipotence, puisqu'en 1970, on est passé de la toute-puissance du chef de famille, inscrite au Code civil, à l'autorité parentale, exercée par les deux parents. Puis à la fin des années 90, on a enfin parlé de coparentalité. Il y a aussi le congé paternité et la garde alternée qui modifient profondément la place du père auprès de ses enfants. Le doublement récent depuis le 1er juillet 2021 de ce congé paternité, qui est passé de 14 à 28 jours, atteste bien de ces changements sociétaux et du désir de favoriser l'implication des pères lors de la naissance de l'enfant.
À côté de ces lois successives, y a-t-il d'autres explications ?
Bien sûr, ces nouveaux comportements masculins sont aussi le résultat de transformations profondes de la famille et du changement de la place des femmes dans la société qui ont lutté pour leur émancipation, l'égalité des sexes et leur entrée massive sur le marché du travail. Car si les pères changent, les mères aussi. Les deux évolutions sont concomitantes.
Jusqu'à présent, on n'étudiait pas beaucoup le père en période périnatale. S'occuper des bébés, c'était plutôt une affaire de femme. Y a-t-il un intérêt nouveau dans les recherches à ce niveau ?
Oui, oui, tout à fait. Les recherches psychologiques en périnatalité, qui se sont énormément développées ces dernières décennies, se sont surtout intéressées à la vie psychique de la mère et à celle du bébé. Le père était plutôt oublié et il y avait vraiment un manque de travaux de recherche le concernant en tant qu'individu. Sa vie émotionnelle à l'occasion de la maternité, son vécu et son rôle n'étaient pas forcément pris en compte. Le père était plutôt considéré comme un parent secondaire. On a parlé de lui d'abord comme un tiers séparateur entre la mère et l'enfant, puis envisagé comme un soutien pour la mère, sans considérer ses propres bouleversements, ses angoisses, voire ses éventuelles souffrances à la naissance de son bébé.
Donc le père peut lui aussi développer des troubles psychiques à la naissance de son bébé ?
Oui, le père peut lui aussi développer des vulnérabilités avec des effets délétères sur le développement de l'enfant et sur la vie de couple. Les récentes études sur la santé mentale des pères montrent qu'ils peuvent, comme les mères, présenter de la dépression postnatale ou de l'anxiété.
Comment se manifeste une dépression postnatale chez le père ?
Alors, elle est différente de chez la mère, car les symptômes se développent de manière plus progressive et sont plus difficiles à diagnostiquer car moins apparents. On retrouve par exemple un retrait social, une indécision, une peur importante, voire des attaques de panique, une rigidité, une irritabilité. Il peut y avoir aussi de la consommation d'alcool et de drogue. L'augmentation des conflits conjugaux et de la violence envers la partenaire sont aussi des signes de dépression postnatale chez le père. On retrouve également un évitement à s'occuper du bébé, une fuite dans le travail par exemple.
Quelles sont les causes de la dépression postnatale chez le père ?
Alors, la dépression postnatale paternelle est probablement d'origine multifactorielle, avec différentes causes intriquées, à la fois psychologiques, biologiques et sociales. Elle s'inscrit d'abord dans une histoire personnelle et familiale qui peut fragiliser le père, comme des traumatismes dans l'enfance, ou alors un événement de vie négatif, comme le décès d'un proche. On retrouve aussi des difficultés liées au bébé, par exemple une maladie ou une naissance prématurée. On a aussi montré que la dépression postnatale paternelle pouvait être favorisée par les variations hormonales de la testostérone en période périnatale. Et enfin, les difficultés, quelles qu'elles soient, s'inscrivent toujours dans un milieu socio-culturel donné. Et peut-être qu'il est moins facile de devenir père quand les rôles des hommes et des femmes sont moins différenciés, dans une société en pleine mutation, et également dans une société de performance qui prône la réussite et l'épanouissement individuel. Ce qui est important, c'est que la dépression postnatale chez la mère est un facteur de risque démontré de la dépression paternelle, d'où l'importance d'accorder une attention aux deux parents.
La fréquence de cette dépression postnatale chez le père est-elle aussi importante que chez la mère ?
Alors, la prévalence de la dépression paternelle en période périnatale est estimée à environ 8 à 10% selon les études, contre 12 à 20% chez les femmes. Et la prévalence des troubles anxieux irait jusqu'à 16% en prénatal et jusqu'à 18% postnatal. Mais tous ces chiffres sont sûrement sous-évalués.
Pourquoi ?
Alors parce que d'une part, la santé mentale paternelle est sous-étudiée par rapport aux troubles maternels, et aussi parce qu'il existe peu d'outils spécifiques valides pour l'évaluer, notamment en langue française. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'outils francophones validés spécifiques à la détresse paternelle en période périnatale, alors que de tels outils se développent à l'étranger. Mais surtout, il est difficile d'étudier les troubles parce que les hommes n'osent pas en parler.
C'est un sujet tabou ?
Oui, c'est un sujet tabou, même si la société change. Le stéréotype idéalisé du mâle, solide et dominant, est toujours très présent. Le père est censé porter sa famille, soutenir sa partenaire et être assez fort pour résoudre ses problèmes tout seul. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas s'exprimer et encore moins consulter, par peur d'être perçus comme des hommes faibles et sans virilité. Dans tous les cas, face à ces risques de développer des troubles et leur impact familial négatif, il est vraiment nécessaire d'accorder une place au père au plus tôt dans le processus de parentalité et d'en favoriser le dépistage.
Est-ce le cas aujourd'hui en France ?
Depuis 2015, l'OMS recommande une meilleure intégration des hommes au suivi de la grossesse pour mieux détecter les signes de leur mal-être. Mais dans les faits, les interventions proposées pour impliquer, informer et soutenir les pères au sein des services de périnatalité sont aujourd'hui limitées, à la fois par le manque de spécificité des interventions, mais aussi par le manque d'intérêt des pères pour les approches proposées. Dans les services, le père est encore bien souvent considéré comme un parent secondaire et les dispositifs concrets pour les accueillir et les soutenir restent trop souvent peu spécifiques à leurs besoins et à leurs préoccupations.
Pourtant, on leur fait une place aujourd'hui dans toutes les étapes de la grossesse, lors des préparations à l'accouchement par exemple.
Oui, mais lors de ces séances de préparation à l'accouchement, les pères ont plus le sentiment d'avoir un rôle de soutien que d'être des participants directs. Dans certains endroits, on propose des groupes d'échange entre hommes pour les préparer psychiquement à la paternité. Cela semble les intéresser, mais ils ne sont pas forcément très nombreux à s'y rendre. Sylvain Missionnier, psychologue spécialisé en périnatalité, parle d'un homme sur 40 dans son expérience.
Leur présence à l'accouchement est maintenant très répandue ?
Oui, bien sûr, la plupart des pères souhaitent être présents à l'accouchement, en tout cas dans notre culture occidentale. Ils expriment de plus en plus le besoin de se sentir impliqués et d'être soutenus par les professionnels pendant ce moment. En tout cas, une attention particulière doit leur être portée en cas de césarienne, car elle reste pour un moment angoissant, surtout si on les met de côté. Et l'intérêt du pot à pot entre le père et son bébé a été démontré dans ces situations. Le pot à pot favorise l'établissement du lien réciproque et c'est une pratique qui se développe de plus en plus dans les maternités.
Et concernant le retour à la maison ?
Au retour à la maison, les pères peuvent se sentir inexpérimentés. Ils ont souvent un sentiment d'incompétence et ça peut gêner la construction des premiers liens père-enfant. Et comme pour la mère, devenir père est un apprentissage. Et cette compétence s'acquiert avec l'expérience. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ce que souligne le rapport des 1000 premiers jours qui évoque l'importance de la présence des pères auprès de leur nouveau-né et le fait que plus le congé paternité est long, plus la relation et les interactions père-enfant sont renforcées. L'allongement récent du congé paternité à 28 jours, dont on a parlé tout à l'heure, est donc une très bonne chose. Il est essentiel d'encourager les pères à s'en saisir.
Pourquoi est-ce si important de veiller à impliquer le père dans les services de périnatalité ?
Eh bien, lorsque le père n'est pas suffisamment considéré par les soignants, il peut se sentir frustré, exclu, ou alors adopter un rôle passif. Et il a été montré que plus le professionnel lui faisait confiance et qu'il le faisait participer, plus le père s'impliquait. Ça augmenterait son sentiment d'efficacité et de satisfaction parentale. Et ce sentiment d'efficacité contribuerait à le motiver, à s'engager davantage et serait bénéfique au bien-être de toute la famille. C'est donc un cercle tout à fait vertueux. Par ailleurs, comme nous l'avons dit, leur donner une place, c'est aussi permettre de dépister leurs troubles éventuels.
Les professionnels sont-ils suffisamment informés sur tous les aspects que vous venez d'évoquer ?
Non, les professionnels ne sont pas encore assez vigilants à l'importance de porter attention aux pères, ni forcément informés sur les troubles psychiques dont ils peuvent souffrir. Il y a un véritable travail de fond à fournir. Il y a aussi le fait que les professionnels de la périnatalité sont surtout des femmes. Et dans ce monde de femmes, on peut très bien se passer des pères, parfois vécus comme encombrants.
Et les pères eux-mêmes, sont-ils informés des difficultés auxquelles ils pourraient être exposés ?
Ils ne le sont sans doute pas suffisamment. Il serait nécessaire de les informer à toutes les étapes de la grossesse, des difficultés qu'ils pourraient rencontrer. L'examen prénatal précoce proposé en début de grossesse à la mère, mais qui est aussi destiné au couple, pourrait vraiment être un temps propice pour échanger avec le père. Il a été rappelé par la commission des 1000 premiers jours que cet entretien prénatal précoce est un facteur de prévention de la dépression postnatale et des troubles de la relation parent-enfant. En même temps, les pères semblent se diriger préférentiellement vers des soutiens informels, plus que vers les professionnels, et leurs partenaires seraient leur principale source d'information et de soutien. Il a aussi été montré qu'ils allaient principalement sur Internet pour y trouver des informations sur la grossesse et la parentalité. Et il est donc important de toucher les pères via leurs canaux de prédilection. Et de nombreux chercheurs ont développé des supports en ligne en ce sens.
D'où l'idée des podcasts.
En effet, nous voulions justement proposer aux pères une source d'information qui soit en adéquation avec leurs intérêts et leurs attentes. Et on sait que la génération des hommes en âge d'être père apprécie le format des podcasts, c'est pourquoi nous avons choisi ce support.
Quels objectifs en dehors d'un support d'information visiez-vous ?
Nous souhaitions tout d'abord donner la possibilité à des pères de s'exprimer, leur donner la parole et recueillir leur vécu dans un esprit de partage collaboratif. Nous pensions que leur témoignage pourrait être un support d'information, de réflexion et peut-être un soutien pour d'autres pères. Mais nous pensions aussi que ça pourrait être un support d'information et de réflexion pour nos professionnels. Puis nous étions curieux, quel type de père allait répondre à notre appel à témoignage, qui serait-il, et est-ce qu'à partir de l'ensemble de ces podcasts, nous pourrions dégager des invariants, des points communs? Est-ce que les témoignages des pères nous amèneraient du matériel pour repenser nos actions et en inventer des nouvelles? Nous étions aussi préoccupés quant à l'impact possible de la Covid sur leur accès à la paternité. Et nous avons donc interrogé les pères sur ce sujet.
Vous avez souhaité le support d'une grille d'interview commune pour l'ensemble des papas interrogés. Pourquoi ?
Alors, par expérience, nous savions que pour certains pères, il serait utile d'avoir un support de questions préétabli pour qu'ils soient plus à l'aise pour s'exprimer. Mais nous avons aussi construit cette grille d'interview pour nous permettre d'apprécier le vécu des pères à toutes les étapes de l'arrivée du bébé, de la grossesse, en passant par l'accouchement, jusqu'au retour à la maison. Nous souhaitions savoir comment ils avaient été informés, impliqués par les professionnels lors de ces différentes étapes, et aussi s'ils avaient pu rencontrer des difficultés particulières. Nous les avons également interrogés sur la façon dont ils envisageaient leur rôle auprès du bébé, de leur partenaire, s'ils avaient pu profiter du congé de paternité, et bien d'autres choses encore que nous allons découvrir ensemble à l'écoute des podcasts.
Oui, beaucoup de choses à découvrir. Alors bonne écoute à nos auditeurs et rendez-vous dans le podcast de conclusion pour écouter vos impressions. Dernière question pratique, Mélissa. Avez-vous un site internet avec les renseignements utiles pour les papas et un lien vers les podcasts ?
Oui, donc le lien pour accéder aux différents podcasts sera disponible effectivement sur le site Auréane, donc www.auréane.fr.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.